excellente question pour vous. Le Saint-Esprit sera-t-il présent pendant la grande tribulation qui viendra sur la Terre? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire, aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on continue l'étude passionnante du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Plus j'en apprends dans la parole de Dieu, plus je réalise qu'il m'en reste beaucoup à apprendre. Et je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Et j'en suis bien heureuse. Comment pourrions-nous tout connaître de notre Dieu, celui qui nous a créés pour sa gloire, celui qui fait naître de nouveau tous ceux qui croient en son Fils unique pour leur salut, celui qui possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, celui qu'on va apprendre à mieux connaître, alors qu'il répondra aux questions que voici. La Bible nous démontre-t-elle ce qui va se passer pendant la deuxième partie des 7 ans de la Grande Tribulation? Est-il possible d'identifier les deux témoins mentionnés dans le livre de l'Apocalypse? Quelle est la caractéristique la plus importante de ces deux témoins? Quel genre de pouvoir auront-ils? Le Saint-Esprit sera-t-il présent pendant la Grande Tribulation? Qu'est-ce qui va arriver aux deux témoins quand ils auront achevé leur témoignage? Quel est le nom de la grande ville mentionnée dans la deuxième partie de la Grande Tribulation? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner et elles viennent toutes du merveilleux livre de Dieu, la Bible. Mais premièrement, prions. Seigneur, tu nous enseignes encore ta parole aujourd'hui. Tu es tellement fidèle. On veut te louer pour ta fidélité. Te louer, te remercier pour ta bonté à notre égard, pour ton amour, pour la manière dont tu nous enseignes ta parole. Touche nos cœurs aujourd'hui, transforme nos vies. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Les 3 années et demie. Lisons Apocalypse chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Dans ce verset, il nous reste à voir la signification des 42 mois. Il s'agit des 3 années et demie de la dernière moitié de la grande tribulation. Plus tard, nous trouverons une autre allusion à ce laps de temps dans Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ce passage fait référence à la dernière moitié du règne de l'Antéchrist sur la terre. La même période de temps est de nouveau mentionnée au chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un temps signifie un an. Des temps signifie un temps double. La moitié d'un temps et la moitié d'une année. Un an plus 2 ans plus une demi-année égale 3 années et demie. Cette période de temps correspond aussi à celle décrite dans l'Ancien Testament par le prophète Daniel. Nous trouvons au chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Toujours dans le livre du prophète Daniel, la même durée de temps est encore spécifiée, au chapitre 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Si on calcule 3 ans et demi en jours, nous arrivons à 1278 jours, une assez bonne approximation de 1290 jours, à moins de 2 semaines près. De plus, dans le prophète Daniel, chapitre 9, verset 27, nous obtenons les précisions suivantes. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, la grande tribulation est répartie en deux parties égales. Cette semaine de Daniel est en réalité 7 années, et cette période de 7 ans est la 70e semaine de Daniel, correspondant à la période de la grande tribulation. Les deux témoins prophétisent. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Les opinions divergent au sujet de l'identité des deux témoins. Ils nous sont présentés, mais aucun indice ne nous est donné pour nous aider à les identifier. Godet émet le commentaire suivant. Ils sont une des caractéristiques les plus saisissantes du livre. Si l'identité de ces deux personnages était essentielle à la compréhension du livre, je pense qu'elle nous aurait été révélée, au moins en partie. C'est souvent dans ces aspects que se spécialisent les commentateurs épris de sensationnalisme. Ils peuvent vous dire quel était le message des 7 tonnerres alors que Jean avait reçu l'ordre de ne pas l'écrire. Et ils peuvent vous dire les noms de ces deux témoins. Les auteurs, ayant adopté un point de vue historique de l'Apocalypse, ont mentionné certaines personnes comme Jean Hus, le pape Sylvestre, Waldenson ou les deux testaments. Comme vous pouvez le voir, selon ce point de vue, on peut suggérer un peu n'importe qui ou n'importe quoi. Ceux qui ont adopté le point de vue futuriste, avec lequel je suis d'accord, ne sont pas complètement d'accord sur l'identité des deux témoins non plus. Sis et Govet suggèrent Enoch et Élie. Dans son livre au sujet de l'Apocalypse, Govet nous apprend que l'Évangile de Nicodème, un livre ne faisant pas partie de la Bible, contient la déclaration suivante. « Je suis Enoch, j'ai plu à Dieu, et j'ai été transporté jusqu'à lui. » Et voici, Élie le Tishbite. « Nous devons vivre jusqu'à la fin de cet âge. Nous serons alors envoyés par Dieu pour résister à l'Antéchrist. Il nous tuera et nous ressusciterons après 3 jours. Nous serons alors enlevés sur des nuées afin de rencontrer le Seigneur. » Dean Alford, Walter Scott et Donald Gray Barnhouse proposent que les deux témoins sont Moïse et Élie. William Newell prend une sage décision. Il décide de ne pas tenter de les identifier. Il est également possible qu'ils soient deux témoins inconnus. En d'autres mots, ils n'ont pas existé dans le passé et ils ne sont pas encore apparus sur scène. Nous pouvons cependant affirmer, sans trop craindre de nous tromper, que ces deux témoins sont des êtres humains. Leur description semble nous autoriser à le faire. Selon la loi mosaïque, il faut au moins 2 témoins pour qu'une cause soit entendue. Ainsi, dans Deutéronome, chapitre 17, verset 6, on peut lire « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus pose les mêmes exigences pour les 4 disciplines à l'Église, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 16. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Les Écritures exigent toujours au moins 2 témoins pour qu'un témoignage soit entendu, quelle que soit la cause. Nous pouvons donc assumer que les témoins de notre passage sont des êtres humains et qu'ils sont au nombre de 2. Ce sont pratiquement les 2 seules choses que nous pouvons affirmer avec certitude. L'identité des 2 témoins. Pour ma part, il me paraît assez certain qu'Élie doit être l'un des 2, puisque son retour est prédit dans Malachie chapitre 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Cette prophétie est confirmée dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 17, verset 11. Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » La présence d'Élie sur la montagne de la Transfiguration serait un autre argument en sa faveur. Mais à ce moment, il faudrait admettre que l'autre témoin soit Moïse, car il était également présent sur les lieux. Et cette position serait peut-être plus délicate à défendre. Car après tout, la montagne de la Transfiguration n'est pas le seul point commun. Sans vouloir faire preuve de dogmatisme, j'aimerais y aller de ma propre suggestion. Selon moi, le deuxième témoin serait Jean-Baptiste. Il était le précurseur de Jésus-Christ à sa première venue. Il présente plusieurs similarités avec Élie et avec les deux témoins au niveau du message et de l'habillement. Je suis sûr que ces deux-là s'entendraient très bien ensemble. Les deux connaissaient le prêt payé pour s'opposer aux forces des ténèbres et se tenir debout pour Dieu devant des circonstances difficiles. L'entraînement acquis lors de leur premier séjour sur terre leur serait très utile. Élie serait le témoin de l'Ancien Testament et Jean-Baptiste celui du Nouveau Testament. Même si ce dernier ne faisait pas vraiment partie de l'Église, il était quand même le témoin de l'époux. Le Baptiste définit sa relation avec Jésus et nous pouvons la lire dans Jean chapitre 3 versets 28 et 29. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. L'époux dont il parle, c'est Jésus-Christ, et l'épouse est son Église. Jean-Baptiste est lui-même l'ami de l'épouse. Il n'est pas l'épouse, mais l'ami de l'époux, et il l'a précédé. Il paraît improbable que Hénoc soit le deuxième témoin, parce qu'il n'était pas juif. Il est venu avant Abraham. Le simple fait qu'il n'a pas connu la mort ne fait pas de lui un candidat obligé pour le poste. Car au temps de la grande tribulation, toute l'Église aura été enlevée et beaucoup de chrétiens auront été enlevés avec elle avant de mourir. On peut donc affirmer avec une certaine assurance qu'Élie est un des deux témoins. Mais pour ce qui est du deuxième témoin, plusieurs options restent ouvertes. La puissance des deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. À mon avis, la caractéristique la plus importante des deux témoins n'est pas leur identité, mais la durée de leur ministère. Nous avons ici 1260 jours. Nous avons déjà signalé que la durée exacte de 3 années et demie est 1278 jours et que l'abomination sera dressée pendant 1290 jours. Nous avons donc, encore une fois, environ 3 ans et demi. Reste à savoir si nos deux témoins paraissent durant la première moitié de la période de la Grande Tribulation ou la deuxième moitié. La première moitié semble cadrer plus précisément avec le texte, car il témoigne avant l'apparition de la bête qui nous sera bientôt présentée. Ils sont ensuite mis à mort. Les deux témoins seront revêtus de sacs. Ce genre d'accoutrement semble mieux convenir à l'économie de la loi plutôt qu'à celle de la grâce. Et ni le Baptiste, ni Élie ne s'en plaindrait, car auparavant, ils s'habillaient tous deux de façon très rustique. Revenons au texte. Lisons Apocalypse chapitre 11, versets 4 et 5. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Plusieurs éléments de ce passage sont étroitement associés à l'Ancien Testament. Les deux oliviers nous renvoient immédiatement au 4e chapitre du livre du prophète Zacharie. On y retrouve aussi les deux chandeliers, qui étaient respectivement Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, le gouverneur de la ville de Jérusalem, au temps du prophète Zacharie. Ces deux hommes avaient reçu du Saint-Esprit une puissance leur permettant de surmonter des difficultés en apparence insurmontables. Le verset clé de cet épisode est sans doute Zacharie chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » De la même manière, le Saint-Esprit sera présent pendant toute la période de la grande tribulation. Ces deux témoins sont des lumières devant les puissances des ténèbres. Dieu accorde une puissance miraculeuse à ces hommes. Elle leur permet de faire descendre sur terre le feu du ciel. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Cette caractéristique rappelle fortement le prophète Élie. On se rappelle comment Dieu, à la prière d'Élie, avait démontré sa puissance contre les faux prophètes de Baal dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38. « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Plus tard, dans 2 Rois chapitre 1, verset 10, Élie se sert de cette puissance pour détruire les soldats venus pour l'arrêter. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendait du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Nous avons le choix. Ou bien nous croyons que ces deux miracles se sont effectivement et réellement produits au temps d'Élie, ou bien nous tenons la Bible pour fausse. J'opte pour la première possibilité. Or, si nous interprétons littéralement ces deux passages de l'Ancien Testament, comment pourrions-nous donner un sens symbolique à la puissance des deux témoins? Pour ce qui est de Jean-Baptiste, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11, on se souvient qu'il annonce la venue de celui qui allait baptiser les hommes par le feu. Ces deux témoins sont invulnérables à toute attaque, jusqu'à la fin de leur mission. Il est encourageant de savoir que Dieu protège ses envoyés jusqu'à ce qu'il ait accompli son plan. Et quand leur mission est terminée, il les rappelle à lui. La pluie et les plaies. Apocalypse chapitre 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Le pouvoir de contrôler la pluie était une autre caractéristique du prophète Élie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Ici, ce portrait ressemble à Moïse quand il a fait tomber les plaies sur l'Égypte et, plus particulièrement, quand il a changé l'eau du Nil en sang. Que les deux témoins soient Élie et Moïse est certainement possible, mais en l'absence d'une identification claire dans la Bible, cette hypothèse reste du domaine de la spéculation. Une chose est cependant certaine. Leur pouvoir de frapper la terre ressemble au pouvoir de Jésus-Christ quand il reviendra. Lisons Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. De toute espèce de plaie, précise le texte. Moïse avait bien sûr frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies, mais ici, les plaies sont plus nombreuses et le territoire plus vaste. Il comprend toute la terre. Chaque fois qu'ils le voudront, Dieu fait confiance à ses fidèles serviteurs. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes comme des enfants nouveau-nés. Dieu ne nous demande pas de faire de grandes choses pour lui. Mais à mesure que nous acquérons plus de maturité, il nous confie des tâches de plus en plus difficiles si nous répondons, bien sûr, à son appel. Par contre, si nous rechignons à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose pour lui, nous demeurons des bébés spirituels toute notre vie. Passons au verset 7 de l'Apocalypse chapitre 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Les témoins achèveront leur témoignage. Ensuite, l'Antéchrist, ou la bête, c'est-à-dire l'homme de péché, prendra le pouvoir. Il rétablira, premièrement, le pouvoir terrestre de l'Empire romain. Ensuite, lorsqu'il sera parvenu à maintenir son contrôle sur le monde entier, il n'hésitera pas à combattre et à tuer les deux témoins. Il lui sera permis de le faire, mais cette victoire des forces des ténèbres sur la lumière sera de courte durée. Pendant ce temps de la grande tribulation, Dieu laissera Satan répandre le chaos et la destruction sur la terre. Le mal triomphera de la justice. Ses témoins seront dignes de ce nom jusqu'à la fin. Car dans le texte grec original, le mot traduit ici par « témoin » est « martus », dont nous tirons aussi le mot « martyr ». Pendant 3 jours et demi, Apocalypse chapitre 11, verset 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Ces deux témoins seront tellement haïs qu'on ne leur accordera même pas une sépulture décente. Nous pouvons nous faire une idée du barbarisme froid et cruel qui prévaudra en ces derniers jours sous un mince vernis de civilisation, comme le disait Melville. Le monde désira les voir pourrir sur place comme des bêtes sauvages. La grande ville est Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe l'identifie à Sodome au chapitre 1, verset 10. Tout au long de la Bible, l'Égypte représente un monde rebelle à Dieu, à sa parole et à sa volonté. Ici, le monde aura pénétré dans tous les aspects de la vie de Jérusalem, autant social que politique ou religieux. Jérusalem est finalement identifiée par ce triste sobriquet, la même où leur Seigneur a été crucifié. Terminons notre lecture de l'Apocalypse aujourd'hui, chapitre 11, verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Après la crucifixion de Jésus-Christ, même Pilate a permis aux amis du Seigneur de lui accorder une sépulture décente. Mais dans le monde évolué de la grande tribulation, les deux témoins ne jouiront pas de ce privilège. Les gens seront surpris d'apprendre qu'ils sont morts. Certains ne voudront pas y croire. L'Apocalypse a été écrite il y a environ 20 siècles. Et pendant les premiers 19 siècles, des gens très instruits ont probablement affirmé que ce passage était symbolique. Car il était impossible que le monde entier se rassemble à Jérusalem pour voir les cadavres. Mais voilà, depuis environ 1 siècle, une telle chose est tout à fait possible par le biais de la télévision et de la transmission par satellite. La curiosité morbide de cette société impie se délectera à contempler ces deux carcasses. Ce monde dépravé ne pouvait pas infliger une pire indignité aux deux témoins qui dénonçaient leur voie corrompue. On se souvient que Jésus avait annoncé sa propre résurrection. Ses ennemis, les pharisiens, redoutant que les disciples ne viennent dérober le cadavre, avaient demandé à Pilate de poster des gardes autour du tombeau. Mais quand Jésus était ressuscité, les pharisiens, endurcis par leur péché, avaient refusé de croire et avaient soudoyé les gardes afin qu'ils prétendent s'être endormis. Les impies réclament souvent des preuves de l'existence de Dieu, mais quand elles leur sont données, ils se bouchent les yeux et les oreilles. Ici, nous ne savons pas si les deux témoins avaient eux aussi prédit leur résurrection. Mais pour prévenir la possibilité de se retrouver devant un autre tombeau vide, le monde ne leur en avait pas donné. On avait laissé les cadavres traîner sur la place avec les caméras pointées sur eux pendant 3 jours et demi. Ah, la Bible est un livre rempli de précision, d'exactitude. Cher ami, tu veux des précisions concernant ton âme, ton esprit, ton être tout entier? La parole de Dieu, elle est comparée à un couteau que les médecins ont entre leurs mains afin d'opérer. Tu veux subir une opération divine? Expose-toi aux saintes écritures. Lis la parole de Dieu, la Bible. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse chapitre 11, les versets 10 à 19. À vous tous, bonne lecture!
Merci, Régent. Au beau milieu de l'enseignement d'aujourd'hui, tu as dit une chose qu'on devrait tous nous efforcer de retenir. Mes amis, permettez-moi de vous répéter ce que Régent a dit. Il a dit, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes comme des enfants nouveau-nés. Dieu ne nous demande pas de faire de grandes choses pour lui, mais à mesure que nous acquérons plus de maturité, il nous confie des tâches de plus en plus difficiles si nous répondons bien à son appel. Ceci me rappelle mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. À cette époque-là, en 1977, 78, 79, l'épouse de mon pasteur me faisait traduire en français des leçons bibliques qu'elle recevait des États-Unis. Non seulement j'étais bénie en faisant des œuvres que le Seigneur avait préparées pour moi en tant que jeune croyante, mais j'étais doublement bénie en recevant tout l'enseignement que ces leçons contenaient, et l'Éternel me faisait grandir ainsi. Aussi, de temps en temps, je chantais un cantique ou deux à l'église. Je composais beaucoup de chants pour le Seigneur, ayant cessé d'en composer pour ma gloire personnelle dans le domaine artistique que je venais d'abandonner. Mais les années se sont poursuivies, et éventuellement, je suis retournée sur la scène publique. Mais cette fois-ci, c'était pour donner mon témoignage, pour annoncer aux gens la bonne nouvelle du salut, pour leur raconter comment Dieu m'avait sauvée, chose que je fais encore aujourd'hui. Mais en plus, il m'a donné un ministère à l'Église dans lequel j'anime des temps de louange et d'adoration. Et maintenant, comme vous le savez, eh bien, je fais de la radio et de la télé avec Régent, mais toujours avec le même but premier, celui d'annoncer la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui veulent l'entendre. Alors, mes amis, je ne me sens pas digne de tout cela, mais quelle joie pour moi de servir le Seigneur de cette manière. Je n'aurais jamais imaginé qu'il m'amènerait jusque-là. Mais c'est sa grâce envers moi qui m'a amené jusqu'à partager quelques applications suite au beau message qu'il nous enseigne par la bouche de Régent. Et la bonne nouvelle dont je vous parle est bien simple et à la fois bien grande. Nous la retrouvons dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 23. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire à Dieu, gloire à Jésus, le sauveur de tous ceux qui l'acceptent comme tel, et non seulement comme sauveur personnel, mais comme Seigneur, c'est-à-dire comme maître de leur vie. La vie éternelle qu'on reçoit gratuitement quand on croit en lui seul pour le pardon de nos péchés. Mon ami, sache que c'est pour toi que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pour toi personnellement qu'il a souffert. Et ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur cette croix, les clous dans ses mains et dans ses pieds. C'est son amour pour toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il est resté là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il dise « Tout est accompli ». Et à ce moment-là, il est mort pour toi, pour payer la rançon, pour payer ta dette, la dette de ton péché. Alors accepte Jésus comme ton sauveur personnel.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.